Ce matin, comme vous l'avez compris, on essaye pendant cet été de porter nos regards vers la création et de s'émerveiller de tout ce que Dieu fait. Et on a choisi donc ce thème des 7 jours de la création. On va regarder Genèse et le deuxième jour, chapitre 1 et les versets 6 à 8. Genèse. Entrez dans la danse. Genèse, chapitre 1, les versets 6 à 8. Je vous fais la lecture. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue. Ainsi il y eut un soir, ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Notre Dieu, c'est vraiment un artiste. Et il nous explique comment il a créé la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve pour que nous comprenions à la fois d'où nous venons et puis qui est notre Créateur et combien il est grand, combien il est majestueux. Genèse chapitre 1, verset 2 dit que la terre était informe et vide. Et c'est comme si notre artiste potier venait de déposer une masse de glaise sur son tour. Et dans les 3 jours qui suivent, il va donner une forme à cette masse et puis ensuite il va la remplir. Elle était informe et vide, elle a été formée et puis elle a été remplie. En 1977, la sonde Voyageur 1 a été lancée par la NASA dans l'espace. En 1990, après 13 ans de voyage, Voyageur 1 a fait une photo de la Terre. La sonde était à ce moment-là à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà de l'orbite de Neptune. Et cette image a fait le tour du monde. Elle nous invite à l'humilité. Lorsque on voit que notre monde ne représente qu'un point Dieu pâle dans l'univers, dans l'immensité de l'espace. Et inspiré par cette photo, l'astronome américain Carl Sagan a écrit ce texte que l'on va entendre maintenant.
C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur ce petit point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir. Les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars. Tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.
Merci. Un point bleu pâle dans l'univers, dans l'immensité de l'univers. Voilà ce qu'est notre Terre. Pourquoi un point bleu pâle ? Mais parce que la Terre est couverte à 70% d'eau et entourée d'une atmosphère qui lui donne cette couleur. D'après le verset 2, l'ensemble de la Terre était formé d'eau et recouverte d'eau. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux du dessus d'avec les eaux du dessous. Et entre, il a mis l'immensité, l'étendue, qu'il a appelé ciel ou cieux. L'eau, c'est la vie. Nos corps sont formés à 60% d'eau. Quelle est la question que l'on se pose à chaque fois que on part explorer une planète? Est-ce qu'il y a de l'eau? Y a-t-il de l'eau? Pas d'eau? Pas de vie? Pas de vie? Pas de vie. Les scientifiques ont calculé que sur la Terre, il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. 1,4 milliard de kilomètres cubes. C'est 10 stades de foot dans la longueur. Dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Et là, il y en a 1 milliard 400 millions. C'est pas mal, hein? Ça fait beaucoup d'eau. Quand vous irez au bord de la mer ou de l'océan pendant vos vacances, vous regarderez l'immensité des eaux. Et vous prendrez tout ce que vous pouvez dans le creux de votre main. Puis vous considérerez ce que le prophète Ésaïe a écrit au sujet de la grandeur de Dieu. Dans son chapitre 40, verset 12, il dit: qui a mesuré dans le creux de sa main les océans? Puis vous irez vous coucher sous la voûte céleste pour vous émerveiller des étoiles. Ou peut-être vous aurez l'occasion de mettre votre œil sur un télescope pour prendre la dimension du ciel et vous songerez encore à Ésaïe 40, verset 12. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume de la main? Notre Dieu l'a fait. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux du haut. Certains scientifiques pensent que les eaux au-dessus du ciel étaient comme une vapeur qui entourait toute la terre et qui lui donnait comme un environnement de serre qui maintenait une température et une humidité uniforme sur toute la planète pour produire une végétation luxurieuse. Et que ce voile d'eau protégeait les hommes des rayons ultraviolets, responsables du vieillissement. Puis, lors du déluge, ce sont ces eaux, en partie, qui se sont déversées sur la terre. Ce voile d'eau s'est fendu et a noyé la terre. Genèse chapitre 7, verset 11 dit que les écluses des cieux s'ouvrirent. Bien sûr, il y a eu ces eaux de la terre, sous la terre, qui sont remontées à la surface. Mais il y a aussi ces eaux du dessus qui se sont déversées sur notre terre. Sans ce voile, les pôles ont été pris dans la glace et les déserts sont apparus. Et l'espérance de vie des hommes a été considérablement réduite. Difficile de savoir, hein, puisque nous venons après le déluge et nous ne pouvons plus observer le phénomène. Mais peut-être c'était cela. Intéressons-nous à présent à l'étendue entre les deux masses d'eau, celle du dessus et celle du dessous. Et cette étendue appelée les cieux. On parle ici certainement de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est cette couche de gaz d'environ 500 kilomètres d'épaisseur qui entoure la Terre. Dans sa première partie, la plus basse, qui couvre les 10 premiers kilomètres, c'est la troposphère, elle contient l'air que nous respirons et la quasi-totalité de la vapeur d'eau. C'est donc dans la troposphère que se forment les nuages. L'atmosphère nous protège contre les rayons ultraviolets, notamment grâce à la couche d'ozone. Elle régule la température de la Terre, à peu près à une moyenne de 10 degrés Celsius. Sans cette étendue qui fait encore cet effet de serre, il n'y aurait pas de régulation de température. Il ferait 100 degrés le jour, moins 150 la nuit. L'atmosphère donc nous protège. Elle nous protège également des météorites. La plupart des météorites se désintègrent en entrant dans l'atmosphère. Elles brûlent et donnent naissance aux étoiles filantes qu'on peut observer en ce moment. C'est la bonne saison pour le faire. En plus, il fait bon et on peut... C'est dans cette étendue que les oiseaux du ciel volent. Chapitre 1, verset 20, il nous est dit que les oiseaux volent vers l'étendue. C'est aussi dans cette étendue que se forment les nuages, que les avions circulent. Les avions circulent à la limite de la troposphère, à 10 kilomètres au-dessus du sol. Comme ça, ils sont sûrs de passer au-dessus de l'Everest. Et qu'on ne se prenne pas... Il y a certainement d'autres raisons. Hein. Il y a aussi la station, l'ISS, en limite de l'atmosphère, 400 kilomètres autour de la Terre. Mais l'étendue, c'est plus que l'atmosphère. C'est aussi l'espace. L'espace avec Météosat, qui est en orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres de la Terre. C'est aussi que dans cet espace, il y a la Lune, 390 000 kilomètres. On verra ça le quatrième jour. Mais en Genèse 1, 14, il est dit que, voilà, il a mis la Lune, le Soleil, dans l'étendue. Il y a Mars, 78 millions de kilomètres de la Terre. Il y a le Soleil, 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais notre système solaire est une infime une infime partie de l'univers créé. La Voie lactée, c'est notre galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire, a 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est l'unité astronomique correspondant à la distance parcourue par la lumière, c'est-à-dire 300 000 kilomètres par seconde, pendant une année. Ça veut dire qu'une année-lumière, c'est 300 000 kilomètres multipliés par le nombre de secondes dans une année. C'est bon ? Ça fait 9 000. Et notez ça. 9 461 milliards de kilomètres. Ça, c'est une année-lumière. Il y en a 100 000. Ça, c'est juste notre galaxie. Elle est donc immensément grande. Mais il y aurait 2000 milliards de galaxies comme la nôtre. Bon, moi, je suis pas très matheux. Mais je peux vous dire que là, quand j'essaye de juste de réfléchir à ça, j'ai une espèce de nausée qui me vient. Le Dieu du ciel est plus grand encore que les cieux qu'il a créés. Il est au-dessus de tout. Vous avez noté, il dit qu'il y ait une étendue. Dieu fit l'étendue. Comme si on pouvait peut-être s'imaginer qu'il allait demander à quelqu'un d'autre de le faire. Non, il le fait lui-même. Et cela fut ainsi. Dieu dit, la chose existe. Voyez-vous, si vous avez juste essayé d'appréhender la dimension, et un Dieu qui dit, et la chose se fait. Dieu est infiniment sage. Il recueille toute la science. Il est l'artisan de merveilles qui nous dépasse. Il est un Dieu tout-puissant. Infini, glorieux, ainsi il se révèle à nos cœurs dans la création. Ça, c'était le ciel de Dieu. Regardons à présent le Dieu du ciel. C'est Dieu qui a fait la terre et les cieux. Il a mis l'eau en quantité. Avant que Dieu crée les plantes, les animaux et les hommes, il savait que toutes ces choses qu'il allait créer aurait besoin d'eau. Donc, il a répondu à ce besoin avant même qu'il apparaisse. Et c'est exactement comme ça qu'il agit dans notre vie à nous aussi. Il sait parfaitement de quoi nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Et même avant que nous ressentions le besoin. Et il a déjà préparé une solution. Quel est votre besoin aujourd'hui? Dieu pourvoit merveilleusement et abondamment aux besoins de l'homme. Du fait que la Terre est un globe, tous les habitants de la Terre, de la planète, ont l'immensité du ciel au-dessus de leur tête qui les invite à contempler le Dieu du ciel. Dans la Bible, il est appelé le Dieu du ciel. Notamment par Abraham, en Genèse, chapitre 24, verset 7. Abraham, il appelle Dieu le Dieu du ciel au moment où il envoie son serviteur pour chercher une épouse pour son fils, Isaac. Et lui dit, l'Éternel, le Dieu du ciel lui-même, enverra son ange devant toi pour te guider dans le choix d'une épouse pour trouver Rebecca. vous inquiétez pour votre épouse, votre future épouse? Le Dieu du ciel connaît ces choses. Il les maîtrise. Il est celui qui nous guide, celui auquel on peut s'adresser avec confiance. Priez-le. Il est le Père céleste. C'est comme ça qu'il est appelé en Matthieu chapitre 6, verset 26, verset 32. Il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas. Il pourvoit à vos besoins. Il nous invite à le prier. Et quand Jésus nous enseigne à prier, il dit, dites, notre Père qui est au ciel, aux cieux. Matthieu 6, verset 9. Notre Dieu gouverne au-dessus de tout. Portez vos regards vers le Père. Le Père, c'est celui qui nous aime, celui qui va prendre soin de nous, celui qui va pourvoir à nos besoins. Il est notre Père. Et puis, il est notre Père céleste. C'est-à-dire, ce Dieu qui est infiniment grand, qui règne au-dessus de tout. Il est à la fois proche de nous pour être notre Père et aussi transcendant, il nous dépasse complètement. La Bible dit que le ciel est sa demeure, ça c'est dans le psaume 33. Écoutez ça, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce sont des versets qui me sont chers parce qu'un jour, je me suis retrouvé tout seul la nuit dans ma cuisine en train de supplier Dieu de se révéler à mon cœur, de me conduire, de diriger ma vie. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, t'es tout seul là, t'es dans ta cuisine, je crois pas que tu ferais mieux d'aller dormir? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu te voit? Juste après que ces pensées soient venues dans mon cœur, mes yeux se posent sur ces versets 13, 14 et 15. Il sait même les pensées de mon cœur. Peut-il être plus proche de nous que ça? Ce Dieu si grand? Psaume 115, verset 3 dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est du ciel qu'il envoie son secours, psaume 57. Qu'il donne ses ordres, psaume 78. Qu'il fait du bien, psaume 78. Qu'il intervient en faveur de son peuple, psaume 80. Qu'il manifeste sa justice, psaume 85. Sa bonté et sa fidélité, psaume 36. Cependant, sa demeure n'est pas un lieu géographique au sein de la création. Vous connaissez peut-être cette citation prêtée à Youri Gagarin, hein, le premier homme qui a fait un vol dans l'espace. C'est le dirigeant russe communiste Nikita Khrouchtchev qui lui a prêté cette parole. Il aurait dit « J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout. Je n'ai pas vu Dieu. » J'ai pensé à ça en disant « Mais c'est normal que tu n'aies pas vu Dieu. » D'abord, il a fait un voyage de 2 heures. Même pas 2 heures. Et son vaisseau est allé aux alentours de 300 kilomètres au-delà de la Terre. Un peu peu pour penser avoir tout visité. Mais surtout, Dieu n'habite pas ces cieux-là. D'ailleurs, Salomon le dit, lors de la dédicace du temple, en 1 roi 8, il dit, « Voici les cieux, et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Le Créateur ne peut être enfermé dans sa création. Dans la Bible, l'expression « le ciel et la terre » ne désigne pas seulement une distance entre deux lieux, mais elle signale aussi une autre distance entre le visible et l'invisible. En Colossiens chapitre 1, verset 16, il dit « Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En 1 Timothée chapitre 6, Dieu est appelé le Dieu bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Dans cette sphère de son ciel, tout se fait selon sa volonté. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ta demeure, dans ta présence. C'est pourquoi Paul y parle du troisième ciel, dans lequel il aurait été enlevé. Il ne sait pas exactement si c'était dans son corps ou hors de son corps, selon 2 Corinthiens 12, mais il appelle ce ciel le paradis. Si c'est le troisième ciel, il y a le premier ciel qui serait l'atmosphère. Le deuxième ciel qui serait l'étendue, l'espace dont on vient de parler. Et puis le troisième ciel qui serait la demeure de Dieu. Il dit qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. En Éphésiens 4, verset 10, il est écrit que celui qui est descendu, Jésus-Christ, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. La présence de Dieu n'est donc pas accessible en fusée. L'immensité du ciel que l'on observe devrait nous pousser à l'humilité, à la crainte et à l'admiration de Dieu, d'un Dieu si grand. Et si c'est ce moyen-là, si c'était ce moyen-là que Dieu avait choisi pour nous, que l'on puisse s'approcher de ce troisième ciel, l'humilité, la crainte, l'admiration de Dieu. Enfin, je voudrais terminer avec cette pensée que l'on est attiré par le ciel. Depuis toujours, le ciel fascine. Abraham a contemplé les cieux. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, psaume 19. Les hommes ont rêvé de voyager de la terre à la lune avec Jules Verne. Son roman est paru en 1865. Puis, presque un siècle plus tard, Youri Gagarine a effectué le premier vol dans l'espace, 1961. Et en juillet 1969, les hommes ont marché sur la Lune. En 2021, septembre 2021, trois entreprises de milliardaires développent des voyages dans l'espace. Blue Origin, la propriété de Jeff Bezos, Virgin Galactic de Richard Branson, dont les prix pour un vol suborbital démarrent à $450,000. Vous pouvez commencer à économiser. Et la société SpaceX de Elon Musk, qui a lancé en septembre un programme de voyage spatial entièrement civil, sans astronaute de métier à bord. En 2021, le vol inaugural de Virgin Galactic est monté à plus de 85 km d'altitude. Les appareils de Blue Origin grimpent à près de 100 km, les fusées de SpaceX dépassent la barre des 190 km d'altitude. Je crois que Dieu, en créant l'étendue, a mis dans nos cœurs cette pensée de nous élever plus haut, de nous arracher à notre simple condition de terrien. On aimerait échapper, au fond, à cette attraction terrestre, à une nature fragile, éphémère et déchue, pour vivre une autre vie une vie éternelle, délivré du poids du péché et de la corruption. Parce que c'est le péché qui a ruiné notre condition. C'est d'ailleurs ce qui fait trembler Carl Sagan dans sa vidéo. Voilà ce qu'il dit, et je vous le relis. Songez aux rivières de sang déversées par tous ces généraux et empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel, aux habitants à peine différents d'un autre recoin. Comment ils peinent à s'entendre, comme ils sont promptes à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Et dans son ignorance de Dieu, Carl Sagan conclut, dans toute cette immensité, rien n'indique qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. Son constat est clair. On a vraiment besoin d'être sauvés de nous-mêmes. Mais comment ? Pour s'arracher seulement à 100 km d'altitude, il faut un moteur d'une puissance de 15 mégawatts, soit 21 000 chevaux, la puissance de 2 rames de TGV. Et puis aussi 450 000 dollars, n'oubliez pas. Mais si vous aviez tout ça, vous seriez loin d'atteindre le troisième ciel et la présence de Dieu. Et donc, c'est impossible d'y aller en fusée. Alors, parce que les hommes pécheurs sont incapables de s'élever jusqu'au Dieu saint, le Dieu du ciel a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il a quitté la gloire éternelle pour venir sur ce point bleu pâle. Et il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. La peine pour le péché ayant été réglée, il est ressuscité et il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Désormais, tous ceux qui croient en lui deviennent concitoyens des cieux. Gens de la maison de Dieu. Ça signifie que quand nous mourrons, en tant que chrétiens, nous rentrons à la maison. Notre place est préparée pour vivre éternellement dans la présence et dans la communion avec Dieu. Avez-vous cette assurance? Sinon, croyez en Christ. Confiez-vous en lui. Un jour, la terre et les cieux d'à présent vont être roulés comme un livre et Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de cris, plus de douleur, plus de guerre. En attendant, je vous propose de vous émerveiller devant la majesté du Dieu créateur. Cherchez à connaître sa création. J'ai passé une semaine là merveilleuse à chercher tous ces chiffres, à m'émerveiller juste de cela. Tous les quelques que j'ai passé dans le bureau d'à côté, chez Sam, et je disais, c'est comme ça. Et lui, il dit, oui. Il étudie ça là, mais aussi, et on s'émerveillait de la grandeur de la création. Pour découvrir ses œuvres et célébrer sa majesté. Dieu a fait l'univers si grand, non pas pour que nous l'habitions. Qui d'entre nous a quitté cette terre pour faire un voyage dans l'espace? Juste dans notre atmosphère, on ne parle pas de sortir de la galaxie, hein? Dieu a fait l'univers si grand, non pas pour que nous l'habitions, mais pour nous montrer sa splendeur, pour nous montrer sa majesté, son infinie grandeur et sa gloire. Alors la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de s'humilier devant un tel Dieu. Nous sommes chacun de nous un des 7 milliards d'habitants qui vivent sur ce point bleu pâle dans l'univers. Est-ce que vous pensez encore un seul instant que tout tourne autour de votre nombril? Est-ce que vous pensez tout contrôler? On ne contrôle rien. Mais Dieu est en contrôle. Faisons-lui confiance. Il gère l'univers. Il peut aussi gérer vos propres vies. Soyez réconciliés avec lui par la foi en Christ. Et puis, la troisième chose qu'on puisse faire, c'est de prier le Dieu du ciel, notre Père céleste. Nous pouvons le prier parce qu'il est tellement grand et à la fois tellement proche de nous. Vous n'êtes pas seul sur ce point bleu pâle qui tourne dans l'univers. Il veut être à vos côtés et prendre soin de chacun d'entre vous. Oh, que ce deuxième jour de la création puisse nous rappeler cela et nous aider à nous émerveiller, à nous humilier et à prier un tel Dieu. Amen. Prions. Notre Père, qui es aux cieux. Ô Seigneur, que tu es grand, que tu es puissant en œuvre. Tu es le Dieu infini, notre Créateur, celui qui nous émerveille par la splendeur de sa création, par cette étendue, par la provision en eau autour de nous, par l'infinie beauté de tout ce que nos yeux peuvent voir. Et Seigneur, la science et tous ces scientifiques astronomes nous aident à découvrir de plus en plus. Mais on n'a encore pas sondé l'univers. Et Seigneur, tu es plus grand encore. Et nous, on est fragiles. On a besoin, Seigneur, d'un Dieu qui prend soin de nous. Mais pas qu'il soit seulement grand, mais aussi tellement proche pour nous appeler ses enfants, pour prendre soin de nous. Je prie ici pour que chacun puisse s'adresser au Créateur avec cette assurance qu'il est son enfant parce qu'il a placé toute sa confiance dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ à la croix. Ô Seigneur, merci de ce que tu nous as pas laissé sans te faire connaître à nous. Tu nous as laissé ce récit de la création. Tu nous as laissé, Seigneur, cette immensité que l'on peut contempler jour après jour. Et on prie pour que tu nous aides à en tirer toutes les leçons. Merci, Seigneur, de nous inviter à prier un Dieu si grand. Et on prie pour que chacun ici qui traverse des moments difficiles puisse se confier dans ce Dieu, le Dieu du ciel, notre Père céleste. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.